Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à tous, ici Aurélie pour RDWA à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Bienvenue dans l'interview du jour. Interview du jour aujourd'hui consacrée au premier festival des mots qui se déroulera les 6, 7 et 8 septembre à Sceaux. Pour parler de tout ça, bien sûr, j'ai en ma compagnie monsieur Jacques Bruyas et Christian Bellegueule. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, pour éclairer un petit peu nos auditeurs, peut-être pourriez-vous expliquer votre rôle au sein de ce festival des mots, M-O-T-S.
Alors festival des mots, puisque c'est un festival organisé à l'intention et à l'intention des écrivains, c'est donc une manifestation première du genre qui est créée par l'Union des écrivains de la région Rhône-Alpes, que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois, et qui est accueillie par l'association Musique et Théâtre sous le Tilleul, qui est à Sceaux, implantée à Sceaux, dont le président est Christian Bellegueule. Christian Bellegueule est un écrivain et un comédien que je connais depuis quelques années, même on n'osera pas dire le nombre d'années.
Oui.
C'est pas à peine de se vieillir. Et donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur de le préfacer, au moins deux de ses ouvrages. Lui, de jouer certaines, je ne sais pas si c'était un honneur pour lui mais, ou un plaisir, mais de jouer certaines de mes pièces. Et puis, notre complicité a fait que je connaissais Sceaux parce que j'avais été critique autrefois, critique musicale, et que j'avais accompagné le début de Sceaux chante Mozart, et je connaissais très très bien Henri Fuoc. Donc tout ça s'est mis en convergence et a fait que, prenant la présidence de l'Union des écrivains, j'avais envie de créer un petit Avignon des écrivains, un futur Avignon des écrivains. J'espère que ça va prendre sauce et forme, et que tout ceci a donné naissance donc à un festival des mots qui va se dérouler sur 3 jours, un vendredi, un samedi et un dimanche.
Donc festival des mots, hein, lourd de sens, puisque mots M-E-T-S, ouais. Et des mots, ce sera la démonstration.
Ouais. Donc, je voulais appeler ça de façon plus prosaïque le premier salon des écrivains. Mais c'est le second titre sous-entendu. Voilà. Et donc c'est vrai que Sceaux a un petit côté magique de par son histoire. Il se trouve que Mickey étant une flûtiste professionnelle internationale, elle a fait son trou. On a rencontré des personnalités, des élus, a créé à Sceaux un peu partout. Et puis maintenant, cette association peut servir effectivement de porte ouverte ou de tremplin. Là, il se trouve que Musique et Théâtre sous le Tilleul, puisqu'on fait à la fois de la musique et du théâtre, on organise des concerts. Et c'est comme ça que Jacques me dit, mais Christian, si on pouvait ouvrir quelque chose à Sceaux. Et je crois qu'il y a à la fois une place, un contexte. J'ai presque même envie de dire que c'est le moment. Mm-hmm. C'est le moment de le faire. J'ai vécu 50 ans à Lyon, je suis à Sceaux depuis 3 ans et demi. Et on s'aperçoit qu'il y a quelque chose à faire au niveau de l'écriture. Il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de théâtre. Et là, il y a quelque chose à faire.
Tout à fait. Et comment vous avez réussi à fédérer un petit peu, parce que j'imagine que ça représente quelques personnes quand même qui s'engagent dans le staff. Comment vous avez réussi à fédérer un petit peu toutes ces personnes?
Alors, d'abord, le hasard veut que... Alors, c'est vraiment le hasard qu'à Sceaux, il y ait donc Henri Fuoc qui a créé Sceaux chante Mozart, que Christian Bellegueule s'y est installé. Quand il parle de Mickey, c'est sa compagne, je tiens à le dire, parce qu'il nous sort que tout d'un coup, Mickey, comme ceci, du chapeau. Et puis qu'il y a le président des offices de tourisme de la région qui s'appelle Bernard Forerou, qui est aussi un écrivain, membre de l'Union des écrivains. Donc déjà, ça faisait 3 personnes dans le même village. Je trouvais que c'était quand même une belle opportunité. Ensuite, fédérer beaucoup, puisque je préside l'Union des écrivains en Rhône-Alpes, beaucoup des écrivains ont leur maison en Ardèche, dans la Drôme, etc. Et puis surtout, beaucoup habitent même en Ardèche, dans la Drôme. C'est, je crois, que le plus grand nombre d'adhérents viennent du sud de Lyon. Et quand je leur ai dit, écoutez, moi j'ai une idée folle dans un village de fous, immédiatement tout le monde m'a dit, oui. C'est Sceaux. D'ailleurs, ça doit avoir, ouais, cette réputation-là.
D'accord.
Donc moi, j'ai dit, bon, allons-y pour Sceaux. Et puis, c'est vrai que quand vous arrivez dans Sceaux, vous avez ce petit campanile. Je rêve un jour que ce petit campanile soit couvert des oriflammes comme Avignon l'a été du temps de Jean Villard. Eh bien, ça sera, donc je vous dis bien, notre premier festival des mots. Et je pense qu'il sera suivi de beaucoup d'autres, puisque déjà, des personnalités se font connaître.
Bien justement, des personnalités, il y en a quelques-unes. On peut peut-être les évoquer.
Quelques vedettes quand même relativement, on va dire, connues et célèbres.
Oui.
qui vont venir, je dirais, ornementer cette manifestation sur 3 jours. D'abord, déjà, l'accueil de la commune, qui a été unanime et extraordinaire.
On peut en parler, oui.
Alors, le maire, Daniel Gilles, Christian Archer, qui s'occupe de la culture, Bernard Forero, qui est président de différents OT du coin. Ces gens-là ont été enthousiasmés en nous ouvrant grandes les portes, en mettant tout le matériel à notre disposition. Donc ça, déjà, c'est réconfortant de voir un accueil sur un projet. Donc on se dit, c'est bon, ça va plaire. Voilà.
Créer
donc
l'adhésion.
Ça, c'est pour les personnalités officielles, sachant qu'on a averti le conseil général, nous aurons l'élu à la culture. Donc ça promet d'être... Maintenant, je laisse à Jacques le soin de décrire les vedettes conviées.
Très bien.
Et voilà, c'est lui qui les a contactées.
D'ailleurs, avant d'en parler, si vous voulez bien, comment s'est procédé cette sélection? Comment vous les avez sélectionnés, ces auteurs?
Oh, si je n'ai pas fait de sélection du tout, j'ai usé et abusé d'un carnet d'adresses que voilà. J'ai fait au gré de ma vie professionnelle et surtout d'écrivain, puisque j'ai publié une soixantaine d'ouvrages et j'ai une trentaine de pièces de théâtre de jouer. Donc j'avais quelques amis. On va commencer peut-être par le plus ancien et le moins connu maintenant, Michel Leroyer. Michel Leroyer, c'est quelqu'un qui a joué plusieurs de mes textes, qui en a lu. Et Michel Leroyer a eu son heure de gloire à la télévision à une époque où aucun des animateurs de Radio Diwa ne pouvait être né. Parce que Radio Diwa n'existait pas d'ailleurs.
Donc
Michel Leroyer a été connu pour un des feuilletons comme le Chevalier de Maison Rouge, Corsaire et Flibustier. Il a joué la seule fois où on l'a représenté à l'écran, Lafayette. C'est un grand ami de Michel Quint, c'est d'ailleurs comme ça en plus que nous avons retrouvé le lien littéraire. C'est un grand amoureux de la poésie.
Et d'ailleurs, il lit du Michel Quint.
Il y va lire du Michel Quint.
Donc ça se passera le 7 pour nos auditeurs.
Alors cela se passera le 7. C'est une très jolie voix. Pour les plus jeunes, c'est celui qui double Ducky dans le NCIS.
Ah, d'accord.
C'est celui qui double Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. John Locke dans Lost. Non, c'est dans Lost, je crois. Enfin, voilà.
Ah, c'est une voix.
Il fait énormément de doublage à la télévision. C'est donc Michel Leroyer. Fabien Attias est un chanteur d'opéra qui a eu son heure de gloire et qui maintenant dirige une compagnie d'opéra et d'opérette à Lyon, qui viendra évoquer quelques souvenirs sur l'art lyrique. Je pensais que c'était un joli petit lien avec Sous Chante Mozart. Mm-hmm. Et puis alors ensuite, bon, on a nos deux dames que j'aime beaucoup. J'ai Enzo. Alors Enzo, c'est pas tout à fait une reconversion. Elle est toujours chanteuse. Elle se produit toujours comme chanteuse. Elle est connue pour être quelqu'un de bien, comme puisque sa chanson le disait.
Ah, ça c'est très mignon.
Juste quelqu'un de bien.
On a adoré ça.
Oui. Et elle va dire du Marie Nimier et du Marguerite Yourcenar essentiellement. Et c'est un spectacle qu'elle va donner ensuite à Paris. Hein. On en aura l'avant-première. Et puis, alors là, c'est la personnalité que j'aime le plus. C'est Anna Prucnal, parce qu'Anna, elle a un petit grain de folie, je crois. Quand elle est passée dernièrement à France Culture, une de vos zones concurrentes.
Non, pas concurrente, on n'est pas sur le même registre.
Mais voilà,
bien que c'est un modèle pour nous.
Consoeur.
Consoeur. Alors, sur France Culture, elle a dit quelque chose d'extraordinaire. L'intervieweur lui dit, Sou, c'est où ça? Qu'est-ce que c'est? De quoi vous parlez? Elle dit, écoutez, si vous commencez à être injurieuse avec une Polonaise en lui parlant de Sou, ça ne va pas marcher comme ça. Sou, c'est le centre du monde. Donc, elle est bien décidée à venir lire des textes. Alors, elle lira des textes de Jean-Michel Maillan, qui est son parolier et son mari. Elle lira des textes de quelques textes de Cocteau. Elle lira aussi un petit peu de ses mémoires, parce qu'elle a écrit un très joli livre de mémoires. Anna Prucnal, c'est également notre petite révolutionnaire blonde qui a animé, fait bouger le cœur des gens de ma génération et qui est arrivée au même moment que Solidarność, bien sûr, et que tous ces mouvements qui ont réveillé l'Est. Voilà.
Bien, vous êtes toujours sur RDIWA à l'écoute du 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Je suis toujours en compagnie de Jacques Brouillas et Christian Bellegueule qui nous parle du premier Festival des mots à Sous le 6, 7 et 8 septembre. Du théâtre aussi, hein, on va avoir...
Alors, donc, comme Jacques est un monsieur modeste, nous allons interpréter la belle histoire du joueur de flûte d'Hamelin qu'il a réécrit et composé spécialement pour nous. Et donc, ma compagne, Mickey Sten, jouera un petit peu des airs de baroque, vu l'époque, non pas avec sa flûte traversière, mais... un pipeau, bien, comment on peut appeler ça,
c'est pas... Un fifre.
Un fifre.
Oui, fifre.
Donc ce sera un beau moment parce que le texte est très joli. Moi, je l'aime beaucoup, cette petite histoire. Hein. Elle pourrait même avoir été vécue à Sceaux avec notre petite rivière, les rats étant emmenés, n'est-ce pas, dans cette rivière. Donc on aura cette partie. Et puis Henri Chastain qui va, alors rien que le titre est évocateur, va interpréter Vieux Con. Bon, alors vous savez qu'il y a 5 catégories de cons. Hein. Il y a le petit con, le grand con, le gros con, le vieux con et la plus terrible, c'est le sale con.
Ah ouais,
alors,
c'est vrai.
Il va interpréter Vieux Con. Tout un poème, c'est une poésie ça.
Voilà, alors je vais quand même expliquer ces deux histoires. L'histoire du joueur de flûte d'Amelin s'appelle La vérité de Copen. C'est un texte qui pourrait être tout à fait d'actualité, pas à Sceaux, mais dans le monde entier et surtout en France actuellement, parce que la véritable histoire du joueur de flûte d'Amelin, ça relève d'une, non pas d'une légende, mais d'une réalité qui a fait que l'on a déplacé des populations d'enfants. En Allemagne, au Moyen-Âge, on a déplacé carrément des enfants, on les a enlevés d'un village pour les mettre dans un autre village qui n'avait pas d'enfants. Et donc, je trouve quelque chose d'assez monstrueux. Je viens de terminer un texte sur la migration, entre guillemets, forcée et involontaire, vraiment involontaire des Roms. Et je trouve que ça a une petite résonance, comme ceci, dans notre actualité. C'est le côté sérieux. Vieux con, c'est simplement que je suis en train d'atteindre l'âge où je vais bientôt être traité de vieux con. Et où je me suis aperçu que, alors pour vous mettre dans l'ambiance du texte, ça commence par une remarque toute simple. Un homme monte dans un train au moment du départ au ski. Une jeune femme, très jolie, le regarde, lui fait des yeux qui pourraient paraître doux et tout d'un coup se lève en lui laissant la place, en prenant beaucoup de considération et de compassion pour ce pauvre monsieur. Et je pense qu'il n'y a rien de plus mortel. À partir de là, il a toutes les considérations qu'il peut avoir sur la prostate qui devient malheureusement plus élastique et plus imperméable et moins imperméable, etc. Ouais. Et tout le reste, et qui fait qu'on arrive à pouvoir imaginer un texte un peu humoristique et en même temps très cruel sur les dégâts de l'âge.
En tout cas, dès le départ, hein, moi, lorsque j'ai eu, c'est Christian Bellegueule que j'ai eu au téléphone, hein, lorsque je vous ai invité à venir à Erdivois, effectivement, tout de suite, vous m'avez fait comprendre que là, on n'était pas du tout de la même génération et que peut-être j'allais me confronter à des vieux.
Non, mais on a l'âge de ses artères. Hein,
voilà. Même génération, c'est uniquement dû à l'âge, au prénom. Vous savez, moi, j'ai été enseignant pendant 3 décennies, un peu plus. Et c'est terrible les prénoms. Quand vous avez une jeune femme qui vous parle au téléphone et qui vous dit « je m'appelle Aurélie », on se dit « mon Dieu, ça ne peut pas être de ma génération, c'est absolument pas possible ». Si elle m'avait dit Marie, à la limite, j'aurais peut-être pu imaginer Marguerite encore plus, mais Aurélie, non.
Mais c'est vrai que vieux con, bon, bah, hélas, on peut être vieux con adolescent, quoi. C'est une maladie malheureusement incurable. Je crois qu'on ne peut pas en guérir. Et une fois qu'on est atteint par ça, on le reste. Et Coluche disait, ils sont tellement nombreux que ceux de l'année prochaine sont déjà là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Bon, mais il y a des cons sympathiques. Et je crois que le tien doit l'être pas mal du tout.
Alors, il faut dire que le comédien est extraordinaire parce que c'est un ancien... c'est un homme de cabaret, c'est un ancien showman, entre guillemets, ce qu'on appelait showman dans les cabarets et compagnie. Il a 84 ans, il a une mémoire extraordinaire, il a appris son texte, il va l'interpréter donc le vendredi en ouverture. Donc nous avons ça en ouverture et puis ensuite nous laisserons le micro à deux conteurs. Dana Lang qui est une conteuse professionnelle et qui va prendre des contes tibétains. Et Dana Lang va créer prochainement à Brang dans l'Isère une maison du conte justement. Et puis ensuite, Christian Elogaba,
oui.
Christian Elogaba, qui est d'origine togolaise et qui a une approche de l'Afrique comme tous les Africains l'ont, c'est-à-dire par l'oralité et par le chant des griots. Et donc, il terminera comme ceci. On attendra que les gens s'endorment ou que les enfants se soient assoupis sur les genoux des parents pour qu'on éteigne les lumières. Ça, c'est pour le vendredi soir. Si vous me permettez de décliner maintenant le samedi, donc en dehors des lectures qui sont faites, donc qui sont programmées dans l'après-midi d'Anna Bruckner, Enzo Enzo, Michel Leroyer et de Fabien Attias, nous aurons une installation dès le matin dans Marché Homo. Alors moi je l'explique bien, il y a un marché de Provence, mais là c'est déjà à Drôme provençal. Quand on est à 10, on la sent beaucoup plus la Provence qu'à Sceaux encore. Et donc c'est le marché provençal. Alors Marché Homo, en deux mots, hein, je tiens à dire.
Oui, surtout vu le contexte actuel, politique actuelle.
Et vu la proximité de notre
député.
Voilà, je préfère dire marcher homo en deux mots, en deux mots. Des écrivains.
J'ai deux mots à vous dire.
Les écrivains vont exposer leurs ouvrages. Une librairie sera dans l'aventure. Des bouquinistes également, et puis tous les amoureux du livre.
Une quarantaine d'auteurs quand même. Ouais, hein,
tous les amoureux du livre pourront découvrir un peu plus, peut-être même de 40, parce que je me méfie, vous savez, les écrivains sont très indisciplinés. Le dernier jour, je m'attends à en voir arriver, alors qu'on ne les avait pas prévus. Mais c'est pas grave.
Ils ne vous trouvent pas assez, finalement.
Une quarantaine d'auteurs, donc les gens auront de quoi lire, se documenter, toucher des livres, et puis en fonction de leurs préférences, se les procurer. Les auteurs seront là pour les signer.
Les dédicacer, tout à fait.
Ça, c'est un côté toujours très sympathique. Alors qu'à la librairie, on a un vendeur en face de soi. Ouais. Et ça change tout d'avoir un auteur. Il y a toujours un petit mot, une anecdote à dire sur l'histoire de son livre. Puis la personne, on voit souvent une grande... Oh, c'est pour ma petite fille, vous pourriez mettre pour Carole un petit mot. C'est l'attrait d'un salon du livre, auteurs.
Les enfants vous font toujours des réflexions du style « Ah, mais c'est vivant, un auteur !» Donc oui. Ça montre bien qu'on a une image très curieuse. Ça, c'est bon pour le samedi. Nous nous rendrons le samedi soir pour faire plaisir à Musique et Théâtre sous le Tilleul, qui a organisé un petit concert de musique et musique et chansons.
Voilà, alors ça, 30 secondes. Donc, dans le cadre de l'association La Motec, il y a la poste pour la mairie pour l'église de Cray. Nous, c'est le temple de Cray. Donc, ça veut dire les amis des orgues du temple. Donc, on a un programme de 10 concerts à l'année dont je m'occupe avec Mickey. Donc, nous allons avoir des gens très célèbres, notamment Jean-Louis Beaumanier, qui est considéré comme le plus grand flûtiste au monde, joueur piccolo. Donc, pour la rentrée, le samedi 7, nous avons un concert au temple de Cray. Et là, on a voulu diversifier. C'est un joueur d'accordéon avec des morceaux de classique et une mezzo-soprano. Donc, ce devrait être une belle soirée accordéon et chanson française.
Vous connaissez samedi, son nom, la chanteuse ?
La chanteuse s'appelle Cory Baudouy.
Voilà, on la salue au passage.
Voilà, Cory Baudouy, Claude Garcia à l'accordéon, sont des artistes connus dans la région. Et je pense que ce sera une très, très belle soirée de rentrée, samedi 7, 20h30, temps de Cray.
Parfait.
Et nous terminons donc le dimanche. Dimanche, nous allons nous promener. Nous allons faire des promenades maïeutiques, c'est-à-dire des discussions en marchant. Nous allons aller, au départ, c'était sur les pas, mais très certainement en compagnie de Pierre Rabhi, si sa santé lui permet. Oui. Dans la forêt de Soue. Imaginez quelque chose de très sot, et parce que je suis très provocateur dans l'âme. J'ai dit à Pierre Rabhi, à son équipe, et si le livre virtuel, c'est-à-dire cet e-book que décrit tant les libraires, que décrit tant des centaines de personnes, et qui fait fleurir chez Amazon et ailleurs, si l'e-book détrônait, un jour permettait de sauver les forêts françaises, nos forêts internationales. Bon, c'est provocateur volontairement, mais ça permet de réfléchir au devenir de notre planète.
Donc peut-être aussi à l'aspect positif, effectivement, de ces e-books qu'on critique à tout va. Ouais,
C'est l'inverse du décor, c'est-à-dire c'est le côté positif d'Internet, sachant que malgré tout, pour aller à accès à Internet, il faut de l'électricité, et que donc, de ce fait, on a un autre aspect de détérioration de notre planète. Mais c'est notre petit côté écolo, donc ça sera sur les traces du colibri, parce que j'aime beaucoup ce mouvement qu'a créé Pierre Rabhi. Il y aura donc Fabien Rodin d'ailleurs, qui est un des animateurs principaux. Ça, c'est la partie sérieuse. Ensuite, il y a deux garçons, il y a Bernard Foré-Roux qui va faire une promenade historique patrimoniale sur Soue et sur la forêt. Et Bernard Jadot, qui est un auteur de théâtre et un romancier, qui est un peu mon complice, il a été président de l'Union des écrivains, et qui va nous parler de l'érotisme dans la nature. Promenons-nous tout nus. Il va dire quelques nouvelles en marchant, quelques nouvelles érotiques. Peut-être, mais je ne le souhaite pas à tout le monde, parce que Bernard Jadot nu, ce n'est pas ce qui m'enthousiasmerait le plus. Peut-être les jeunes femmes qui l'accompagnent. Mais
Belle gueule, c'est mieux, c'est nettement mieux.
Guère mieux pour moi. Et puis donc Audrey Dupont, une jeune auteure qui s'est fait remarquer ces derniers temps, puisqu'elle était distinguée, entre autres, par les magazines féminins, parce que c'est une... Elle n'aimerait pas que je dise que ça soit une, c'est une féministe, mais c'est une femme qui revendique haut et fort son statut de femme et qui a, a écrit des nouvelles sur...
Elle a bien raison.
Bien sûr. Elle a écrit des nouvelles sur le devenir des femmes à travers le monde et c'est des très très beaux textes. Et donc elle évoquera également ça. Et nous terminerons, plutôt que de nous quitter bêtement, nous nous quitterons autour d'une pizza. Pizza de le revoir le dimanche, en attendant que l'année prochaine, où je pense qu'on pourra revenir vous voir et vous annoncer de très jolis noms.
Pizza fabrication artisanale, j'imagine.
Ouais, hein.
Tout le monde y met les mains.
Tout le monde y met les mains. Il y a un très joli, four dans Sous et un jeune boulanger qui a repris l'affaire. Oui. Alors, c'est vrai qu'il faut juste souligner que les commerçants de Sous ont bien joué, joueront bien le jeu. Oui. Il y a des restaurants assez folkloriques pour
on
le moins qu'on
veut
dire.
Équipé avec l'oiseau sur sa branche, c'est très célèbre.
Oui, Arthur
et Aurélie. Et puis, il y a une crêperie. Et on a.
Vinaigrette et cerise.
De ce côté-là, je pense que les gens seront contents d'aller. Ce sont ce qu'on appelle de bonnes tables. De bonnes tables abordables où il y a vraiment, c'est très éclectique. On peut manger beaucoup de choses. Et donc, toutes les chambres d'hôtes sont louées. Je pense que c'est une belle animation, très bien accueillie, rondement menée, bien orchestrée par Jacques. Et je pense que Mickey et moi-même tâcherons d'être à la hauteur pour le joueur de flûte d'Amelin. Et si le temps, en plus, nous accompagne, je pense que ce sera une première qui en appellera d'autres. Vraiment.
Alors,
vraiment.
Puisque radio, on va pas jouer à la flagornerie ou à cache-cache, puisque vous êtes la première radio à qui on en parle.
Oui.
Et ben vous êtes les premiers invités.
Eh bien, voilà.
Vous parrainerez comme ça notre affaire.
Sincèrement, nous serions honorés. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille et que vous êtes nos invités.
Bien, nous en sommes flattés. En tout cas, je me permets de parler pour mes collègues et moi-même. Merci.
Vraiment,
ça nous touche. En tout cas, nous, c'était une info qu'on n'avait pas envie de louper, tout simplement. Hein. Que de bons moments en perspective, vraiment.
Oui.
Donc, ça se passera à Sous les 6, 7 et 8 septembre. En attendant, tous les deux, vous qui êtes auteurs, respectivement, peut-être pourriez-vous, pour nos auditeurs, évoquer un petit peu votre parcours. Comment l'écriture arrive sur votre parcours de vie, sur votre ligne de vie?
Alors, j'ai écrit mes premiers poèmes à l'âge de 15
ans. Donc Christian Bellegueule.
Voilà, j'ai écrit mes premiers poèmes à l'âge de 15 ans. Jacques a édité plusieurs choses de ma part. Alors, j'ai écrit un roman à 18 ans qui a eu un prix.
On peut peut-être le citer ?
Ah, c'est un joli titre, c'est Un amour double. Et ça raconte ma jeune vie d'amoureux à Lyon dans un... Voilà, c'est une histoire extraordinaire. Ça pourrait faire un joli film d'ailleurs. Et puis ensuite, j'ai continué d'écrire. Et c'est vrai qu'un jour, les Amours orientales ont été présentées à un concours international en Italie. Donc Jacques en est l'éditeur. Et je n'en reviens toujours pas. J'ai reçu un prix monstrueux. Il a été considéré comme le meilleur recueil et le meilleur poète en langue française sur un concours international en Italie. On raconte toujours que ces gens-là, parce qu'ils ne font pas comme en France, les Italiens, ils offrent des coupes, comme pour le football ou les courses cyclistes. Et je suis revenu avec une énorme coupe et à chaque fois dans l'avion, les gens se demandaient, les policiers me prenaient à part, « Bomba, bomba, bomba !»« Non, 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 c'est une coupe, je viens de recevoir un prix !» Alors, c'est vrai que je suis très heureux d'écrire de la poésie depuis tout petit, depuis l'âge de 15 ans.
Et tu es aussi auteur dramatique. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Une jolie criminelle.
Une si jolie criminelle. Et j'ai monté à Caluire le Grand Prix international de poésie de Caluire. Évidemment, il ne pouvait pas s'appeler autrement que Jean Moulin, dont Jabrias l'anime avec moi. Et ça aussi, c'est des moments magiques quand on peut faire, on décerne un prix international à des gens qui viennent de très loin. Ce sont de très beaux moments.
Tout à fait.
Voilà mon parcours d'écrivain. Là, j'ai un recueil de poésie qui est prêt à être édité. J'ai un roman, une pièce de théâtre.
On peut en parler de ce recueil? Ça fera partie des actus à annoncer?
Alors, ce nouveau recueil n'a pas de titre.
Mais il va paraître avant la fin de l'année.
Il va paraître avant la fin de l'année.
Eh bien, je vous convie à venir à l'antenne d'Erdiwa l'annoncer avec plaisir.
Bon. Voilà, bon, on ne s'ennuie pas finalement.
Mais oui, finalement. Allez, si je peux me permettre, Jacques Brouillasse.
Moi, je suis arrivé dans la littérature d'une autre façon. Je suis fils d'un peintre qui a été connu et d'un petit-fils d'un peintre encore plus connu que mon père. Et moi, j'étais convaincu que j'étais le dernier peintre de la dernière génération et que je serais le dernier génie du XXe siècle ou du XXIe siècle.
Ah, quand même,
Avant Picasso et que j'écraserais tout le monde. Et puis, mon père n'était pas tout à fait convaincu de mon talent. Et donc, un jour où j'ai exposé des œuvres dans une galerie, j'avais 17 ans, mon père a fait enlever ses œuvres, hein, parce que j'avais un peu dictateur hein, dans l'âme, et il les a fait remplacer par un ouvrage qu'il avait fait éditer et qu'il avait fait préfacer par un de ses amis, excusez du peu, s'appelait Louis Aragon. Et c'est donc, j'avais 17 ans, et j'ai publié mon premier recueil de poèmes comme ceci. Et les gens à Lyon ont été convaincus, ceux qui sont venus à la galerie, que c'était un petit coup de com' que j'avais fait et que j'avais jamais peint de ma vie et que j'étais un écrivain. Et là-dessus, à l'époque, à la télévision, il n'y avait qu'une seule chaîne, et il y avait une émission de télévision qui s'appelait Bienvenue, qui était animé par Guy Béard et qui avait invité un autre garçon qui s'appelait Dominique Tron, qui est marseillais et qui avait été préfacé par Elsa Triolet et moi donc préfacé par Louis Aragon. Et voilà, et c'était parti. Alors, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, comme on dit, mais à Lyon, dans la région lyonnaise et même dans la Drôme, je pense, et partout, il n'y avait plus d'éditeurs depuis longtemps. Donc, on était très malheureux quand on se mettait à écrire parce qu'on ne trouvait pas d'éditeurs, il fallait monter à Paris. Moi, très tôt, j'ai eu charge de famille. Et puis, je me suis dit, je vais peut-être faire autre chose. Je me suis lancé dans l'enseignement. Et ça m'a rattrapé à 22 ans. J'ai republié un ouvrage à 22 ans. Et puis ensuite, un ouvrage... Après, je n'ai plus jamais arrêté. La première fois où je me suis essayé au Polar, j'ai eu une chance aussi. J'ai été préfacé par Simenon. Quand j'ai commencé mon premier roman, j'ai été préfacé par quelqu'un qui vient des Cévennes, qui s'appelait André Chanson, qui était, qui était un très bon écrivain. Voilà. Et donc j'ai eu cette chance, j'ai été un peu porté par la chance. Et puis j'ai découvert le théâtre. Et quand j'ai écrit pour le théâtre, j'ai eu le jeune prix du théâtre d'Avignon il y a 35 ans. Et cette année, j'avais une pièce qui était jouée d'ailleurs à Avignon. Et Rufus, qui m'avait valu le premier prix, était là pour me le rappeler 35 ans après. Voilà, et ça n'a jamais arrêté. J'ai publié 63, 64 ouvrages, dont un qui va sortir prochainement.
J'ai l'impression que c'était votre destinée, si toutefois ça existe.
Je ne sais pas, peut-être.
Il y avait une plume dans son berceau.
Oui, c'est ça. Mais moi, je voulais vous demander la peinture aujourd'hui, alors, Jacques Brugas.
Je peins, et malheureusement, je peins toujours. Mais je n'ose plus rien montrer depuis l'âge de 17 ans. Donc un jour, je me suis lancé le défi qu'un jour, je montrerai ça. De même que je me suis lancé un autre défi pour la première fois de ma vie. J'ai un texte qui s'appelle La dernière grimace que Michel Leroyer a interprété et qui depuis 30 ans est joué à Prague tous les soirs. C'est un texte assez terrible qui raconte l'histoire d'enfants déportés dans le camp de Térésine et dont le chef de camp, pour ne pas entendre pleurer les enfants, avait demandé à un clown de s'habiller, de se maquiller en clown tous les jours et d'accompagner les enfants à la mort jusqu'à ce qu'un jour il se laisse enfermer avec les enfants. Et ce texte m'a travaillé pendant très très longtemps, il est joué depuis 30 ans, et là pour la première fois, je vais faire un scoop à Radio Divoine, même à Christian Belliol, parce que je ne sais pas encore, pour la première fois je vais l'interpréter, fin novembre je vais commencer une petite série, une petite tournée, un ami m'a demandé, et pour la première fois je vais l'interpréter seul en scène, et je vais voir ce que ça donne, parce que je n'ai jamais joué de mes textes.
Voilà, déjà la tête, la gueule, tout ce qu'il faut pour le physique. Après, le reste, ça vient, en principe. Quand on a le physique, déjà, en général...
Oui, puis j'ai le sentiment que Jacques est imprégné, quand même, hein, de ce personnage.
Tout à fait.
Ah oui, oui.
Bon. Je vous remercie hein, tous de vos témoignages. Et puis peut-être allons-nous vous revenir à des causes plus pragmatiques, dirons-nous. À qui s'adresse ce festival?
Alors, il s'adresse d'abord à tout le monde, bien sûr. Il s'adresse à tous ceux qui aiment les mots. Et je vais vous dire que si on écoutait davantage et si on lisait davantage, on aurait peut-être beaucoup moins de mots M-A-U-X dans notre monde. Parce que c'est singulier. Les gens sont abreuvés d'informations multiples via Internet, via les radios, via la télé, via la voiture. On est toujours en train d'écouter quelqu'un et tout compte fait, on l'écoute peut-être, mais on ne l'entend pas souvent.
Tout à fait.
Voilà. Donc nous essayons de nous faire entendre et de nous faire lire.
Comme dirait, c'est de 7 à 77 ans, c'est-à-dire qu'on peut lire très tôt et on peut lire très tard. Et je pense que sur la quarantaine des écrivains, nous aurons tout, du régionalisme, du roman, de la bande dessinée. Alors curieusement, des personnes ont demandé à l'office de tourisme de Sceaux, est-ce que c'est payant? Non. Je veux dire, à part le fait d'acheter des livres, tout est mis à la disposition des gens gracieusement.
C'est parfait.
Donc, venez, amusez-vous, faites la fête, on pourra se distraire et repartir, comme je le dis dans mon mail, plus riche, plus riche de connaissances, d'amitié, de beauté, voire de bonté, de fraternité.
On va rester là-dessus, peut-être un contact à transmettre à nos auditeurs.
Des numéros de téléphone pour se renseigner, alors un fixe 04 74 80 87 56, deux portables 06 07 11 01 57 et 06 73 03 96 78.
Merci.
Voilà.
Merci. Merci à tous les deux de toutes ces précisions. Et puis j'espère que ce premier festival démo en annoncera d'autres. Et je n'en doute pas, à vrai dire. Donc, chers auditeurs, c'était l'interview du jour avec le premier festival démo qui se déroulera à Sceaux le 6, 7, 8 septembre, à ne pas manquer. Je remercie Jacques Brouillaz, je remercie Christian Bellegueule et je vous dis à bientôt dans l'interview du jour.
À bientôt.
Une forêt cache un olivier, drapé l'enfant de la montagne s'éveille, inconscient au cri de la guerre. Sur les versants d'un trône divisé, ma terre boit.
Okay, the bird.